Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, journal intime. De la vaporisation et de la centralisation du moi, tout est là. D'une certaine jouissance sensuelle dans la société des extravagants. Je pense commencer mon cœur mis à nu n'importe où, n'importe comment, et le continuer au jour le jour, suivant l'inspiration du jour et de la circonstance, pourvu que l'inspiration soit vive. Le premier venu, pourvu qu'il sache amuser, a le droit de parler de lui-même. Je comprends qu'on déserte une cause pour savoir ce qu'on éprouvera à servir une autre. Il serait peut-être doux d'être alternativement victime et bourreau. Sottise de Girardin. Notre habitude est de prendre le taureau par les cornes, prenons donc le discours par la fin. 17 novembre 1863. Donc, Girardin croit que les cornes des taureaux sont plantées sur leur derrière. Il confond les cornes avec la queue. La femme est le contraire du dandy, donc elle doit faire horreur. La femme a faim et elle veut manger. Soif et elle veut boire. Elle est en rut et elle veut être foutue. Le beau mérite. La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. Aussi est-elle toujours vulgaire, c'est-à-dire le contraire du dandy. Relativement à la Légion d'honneur, celui qui demande la croix a l'air de dire « Oh, si je ne m'en décore pas pour avoir fait mon devoir, je ne recommencerai plus ». Si un homme a du mérite, à quoi bon le décorer? S'il n'en a pas, on peut le décorer parce que cela lui donnera un lustre. Consentir à être décoré, c'est reconnaître à l'État ou au prince le droit de vous juger, de vous illustrer, etc. D'ailleurs, si ce n'est l'orgueil, l'humilité chrétienne défend la croix. Calcul en faveur de Dieu. Rien n'existe sans but, donc mon existence a un but. Quel but? Oh, je l'ignore. Ce n'est donc pas moi qui l'ai marqué. C'est donc quelqu'un plus savant que moi. Il faut donc prier ce quelqu'un de m'éclairer, c'est le parti le plus sage. Le dandy doit aspirer à être sublime, sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir. Analyse des contre-religions. Exemple, la prostitution sacrée. Qu'est-ce que la prostitution sacrée? Excitation nerveuse? Mysticité du paganisme? Le mysticisme, trait d'union entre le paganisme et le christianisme. Le paganisme et le christianisme se prouvent réciproquement. La révolution et le culte de la raison prouve l'idée du sacrifice. La superstition est le réservoir de toutes les vérités. Il y a dans tout changement quelque chose d'infâme et d'agréable à la fois, quelque chose qui tient de l'infidélité et du déménagement. Cela suffit à expliquer la Révolution française. Mon ivresse en 1848. De quelle nature était cette ivresse? Goût de la vengeance, plaisir naturel de la démolition, ivresse littéraire, souvenir des lectures. Le 15 mai, toujours le goût de la destruction, goût légitime si tout ce qui est naturel est légitime. Les horreurs de juin. Folie du peuple et folie de la bourgeoisie, amour naturel du crime. Ma fureur au coup d'État, combien j'ai essuyé de coups de fusil. Encore un Bonaparte, quelle honte. Et cependant, tout s'est pacifié. Le président n'a-t-il pas un devoir, droit à invoquer? Ce que l'empereur Napoléon III, ce qu'il vaut, trouver l'explication de sa nature et sa providentialité. Être un homme utile m'a paru toujours quelque chose de bien hideux. 1848 fut amusant que parce que chacun y faisait des utopies, comme les châteaux en Espagne. 1848 ne fut charmant que par l'excès même du ridicule. Robespierre n'est estimable que parce qu'il a fait quelques belles phrases. La révolution par le sacrifice confirme la superstition. Politique. Oh, je n'ai pas de conviction, comme l'entendent les gens de mon siècle, parce que je n'ai pas d'ambition. Il n'y a pas un mois de base pour une conviction. Il y a une certaine lâcheté, ou plutôt une certaine mollesse chez les honnêtes gens. Les brigands seuls sont convaincus. De quoi, qu'il leur faut réussir. Aussi, ils réussissent. Et pourquoi réussirais-je, puisque j'ai même pas envie d'essayer? On peut fonder des empires glorieux sur le crime et de nobles religions sur l'imposture. Cependant, j'ai quelques convictions dans un sens plus élevé et qui ne peut pas être compris par les gens de mon temps. Sentiment de solitude dès mon enfance. Malgré la famille et au milieu des camarades, surtout, seulement de destinée éternellement solitaire. Cependant, goût très vif de la vie et du plaisir. Presque toute notre vie est employée à des curiosités niaises. En revanche, il y a des choses qui devraient exciter la curiosité des hommes au plus haut degré et qui, à en juger par leur train de vie ordinaire, ne leur en inspirent aucune. Où sont nos amis morts? Pourquoi sommes-nous ici? Venons-nous de quelque part? Qu'est-ce que la liberté? Peut-elle s'accorder avec la loi providentielle? Le nombre des âmes est-il fini ou infini? Et le nombre des terres habitables, etc., etc. Les nations n'ont de grands hommes que malgré elles. Donc le grand homme est vainqueur de toute sa nation. Les religions modernes ridicules, Molière, Béranger, Garibaldi. La croyance au progrès est une doctrine de paresseux, une doctrine de belge. C'est l'individu qui compte sur ses voisins pour faire sa besogne. Il ne peut y avoir de progrès vrai, c'est-à-dire moral, que dans l'individu et par l'individu lui-même. Mais le monde est fait de gens qui ne peuvent penser qu'en commun, en bande, ainsi les sociétés belges. Il y a aussi des gens qui ne peuvent s'amuser qu'en troupe. Le vrai héros s'amuse tout seul. Éternelle supériorité du dandy, mais qu'est-ce que le dandy? Mes opinions sur le théâtre. Ce que j'ai toujours trouvé de plus beau dans un théâtre, dans mon enfance et encore maintenant, c'est le lustre. Un bel objet lumineux, cristallin, compliqué, circulaire et symétrique. Cependant, je ne nie pas absolument la valeur de la littérature dramatique. Seulement, je voudrais que les comédiens fussent montés sur des patins très hauts, portassent des masques plus expressifs que le visage humain, et parlassent à travers des porte-voix, enfin, que les rôles des femmes fussent joués par des hommes. Après tout, le lustre m'a toujours paru l'acteur principal, vu à travers le gros bout ou le petit bout de la lorgnette. Il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir, puisque tout bien vérifié, travailler est moins ennuyeux que s'amuser. Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade. Celle de Satan Une animalité est une joie de descendre. C'est à cette dernière que doivent être rapportées les amours pour les femmes, les conversations intimes avec les animaux, chiens, chats, etc. Les joies qui dérivent de ces deux amours sont adaptées à la nature de ces deux amours. Ivresse d'humanité, grand tableau à faire, dans le sens de la charité, dans le sens du libertinage, dans le sens littéraire ou du comédien. La question, la torture, est, comme art de découvrir la vérité, une niaiserie barbare. C'est l'application d'un moyen matériel à un but spirituel. La peine de mort est le résultat d'une idée mystique totalement incomprise aujourd'hui. La peine de mort n'a pas pour but de sauver la société, matériellement du moins. Elle a pour but de sauver spirituellement la société et le coupable. Pour que le sacrifice soit parfait, il faut qu'il y ait un sentiment et joie de la part de la victime. Donner du chloroforme à un condamné à mort serait une impiété, car ce serait lui enlever la conscience de sa grandeur comme victime et lui supprimer les chances de gagner le paradis. Dandys, l'enfer du Claude Gueux, théorie du sacrifice, légitimation de la peine de mort, le sacrifice n'est complet que par le sponte soi de la victime. Un condamné à mort raté par le bourreau, délivré par le peuple, retournerait au bourreau. Nouvelle justification de la peine de mort. Quant à la torture, elle est née de la partie infâme du cœur de l'homme, assoiffée de volupté. Cruauté et volupté, sensations identiques, comme l'extrême chaud et l'extrême froid. Ce que je pense du vote et du droit d'élection, des droits de l'homme, ce qu'il y a de vil dans une fonction quelconque. Un dandy ne fait rien. Figurez-vous un dandy parlant au peuple, excepté pour le bafouer. Il n'y a de gouvernement raisonnable et assuré que l'aristocratique. Monarchie ou république basée sur la démocratie sont également absurdes et faibles. Immenses nausées des affiches. Il n'existe que trois êtres respectables. Le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer et créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions. Observons que les abolisseurs de la peine de mort doivent être plus ou moins intéressés à l'abolir. Souvent, ce sont des guillotineurs. Cela peut se résumer ainsi. Je veux pouvoir couper la tête, mais tu ne toucheras pas la mienne. Les abolisseurs d'âmes matérialistes sont nécessairement des abolisseurs d'enfer. Ils y sont à coup sûr intéressés. Tout au moins, ce sont des gens qui ont peur de revivre, des paresseux. Madame de Metternich, quoique princesse, a oublié de me répondre à propos de ce que j'ai lu d'elle et de Wagner. Meurt du 19e siècle. Histoire de ma traduction d'Edgar Poe. Histoire des fleurs du mal. Humiliation par le malentendu et mon procès. Histoire de mes rapports avec tous les hommes célèbres de ce temps. Joli portrait de quelques imbéciles, Clément de Rie, Castagnari. Portrait de magistrats, de fonctionnaires, de directeurs de journaux, etc. Portrait de l'artiste en général. Du rédacteur en chef et de la pionnerie. immense goût de tout le peuple français pour la pionnerie et pour la dictature. C'est le « si j'étais roi ». Portraits et anecdotes. François Bulloz, Houssaye, le fameux Rouy, de Calonne. Charpentier, qui corrige ses auteurs en vertu de l'égalité donnée à tous les hommes par les immortels principes de 1789. Chevalier, véritable rédacteur en chef, selon l'Empire. Sur George Sand. La femme Sand est le prud'homme de l'immortalité. Elle a toujours été moraliste. Seulement, elle faisait autrefois de la contre-morale. Aussi, elle n'a jamais été artiste. Elle a le fameux style coulant, cher aux bourgeois. Elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde. Elle a, dans les idées morales, la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiment que les concierges et les filles entretenues. Ce qu'elle dit de sa mère, ce qu'elle dit de la poésie, son amour pour les ouvriers, que quelques hommes aient pu s'amouracher de cette latrine, c'est bien la preuve de l'abaissement des hommes de ce siècle. Voir la préface de Mademoiselle La Quintini, où elle prétend que les vrais chrétiens ne croient pas à les faire. La Sande est pour le dieu des bonnes gens, le dieu des concierges et des domestiques filous. Elle a de bonnes raisons pour vouloir supprimer l'enfer. Le diable et George Sand. Il ne faut pas croire que le diable ne tente que les hommes de génie. Il méprise sans doute les imbéciles, mais il ne dédaigne pas leur concours. Bien au contraire, il fonde ses grands espoirs sur ceux-là. Voyez George Sand. Elle est surtout, et plus que toute autre chose, une grosse bête, mais elle est possédée. C'est le diable qui lui a persuadé de se fier à son bon cœur et à son bon sens, afin qu'elle persuadât tous les autres grosses bêtes de se fier à leur bon cœur et à leur bon sens. Oh, je ne puis penser à cette stupide créature sans un certain frémissement d'horreur. Si je la rencontrais, oh, je ne pourrais pas m'empêcher de lui jeter un bénitier à la tête. George Sand est une de ces vieilles ingénues qui ne veulent jamais quitter les planches. J'ai lu dernièrement une préface, la préface de Mademoiselle de La Quintini, où elle prétend qu'un vrai chrétien ne peut pas croire à l'enfer. Elle a de bonnes raisons pour vouloir supprimer l'enfer. Je m'ennuie en France, surtout parce que tout le monde y ressemble à Voltaire. Emerson a oublié Voltaire dans ses représentants de l'humanité. Il aurait pu faire un joli chapitre intitulé « Voltaire ou l'antipoète, le roi des badauds, le prince des superficiels, l'anti-artiste, le prédicateur des concierges, le père Gigogne des rédacteurs du siècle. » Dans les oreilles du comte de Chesterfield, Voltaire plaisante sur cet ami mortel qui a résidé pendant 9 mois entre des excréments et des urines. Voltaire, comme tous les paresseux, haïssait le mystère. Au moins aurait-il pu deviner dans cette localisation une malice ou une satire de la Providence contre l'amour, et dans le mode de la génération, un signe du péché originel. De fait, nous ne pouvons faire l'amour qu'avec des organes excrémentiels. Et ne pouvant supprimer l'amour, l'Église a voulu au moins le désinfecter, et elle a fait le mariage. Portrait de la canaille littéraire. Docteur Estaminetus Crapulosus Pedantissimus. Son portrait fait à la manière de Praxitèle. Sa pipe, ses opinions, son égélianisme, sa grâce, ses idées en art, son fiel, sa jalousie, un joli tableau de la jeunesse moderne. La théologie. Qu'est-ce que la chute? Si c'est l'unité devenue dualité, c'est Dieu qui a chuté. En d'autres termes, la création ne serait-elle pas la chute de Dieu? Dandysme. Qu'est-ce que l'homme supérieur? Ce n'est pas le spécialiste. C'est l'homme de loisir et d'éducation générale. Être riche et aimer le travail. Pourquoi l'homme d'esprit aime les filles plus que les femmes du monde, bien qu'elles soient également bêtes? À trouver. Il y a de certaines femmes qui ressemblent au ruban de la Légion d'honneur. On n'en veut plus parce qu'elles se sont salies à de certains hommes. C'est par la même raison que je ne chausserai pas les culottes d'un gueux. Ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'amour, c'est que c'est un crime où l'on ne peut pas se passer d'un complice. Étude de la grande maladie de l'horreur du domicile. Raison de la maladie. Accroissement progressif de la maladie. Indignation causée par la fatuité universelle de toutes les classes, de tous les êtres, dans les deux sexes, dans tous les âges. L'homme aime tant l'homme que quand il fuit la ville, c'est encore pour chercher la foule, c'est-à-dire pour refaire la vie à la campagne. Discours de Durando sur les Japonais. Moi, je suis français avant tout. Les Japonais sont des singes. C'est Darjon qui me l'a dit. Discours du médecin à l'ami de Mathieu sur l'art de ne pas faire d'enfants, sur Moïse et sur l'immoralité de l'âme. L'art est un agent civilisateur. Castagnari. Physionomie d'un sage et de sa famille au cinquième étage, buvant le café au lait. Le sieur Nacquart père et le sieur Nacquart fils. Comment le Nacquart fils est devenu conseiller en cour d'appel. De l'amour, de la prédilection des Français pour les métaphores militaires. Toute métaphore ici porte des moustaches. Littérature militante. Rester sur la brèche. Porter haut le drapeau. Tenir le drapeau haut et ferme, se jeter dans la mêlée. Un des vétérans, toutes ces glorieuses phraséologies s'appliquent généralement à des cuistres et à des fainéants d'estaminets. Métaphore française. Soldat de la presse judiciaire, Bertin, la presse militante. À ajouter aux métaphores militaires, les poètes de combat, les littératures d'avant-garde, ces habitudes de métaphores militaires dénotent les esprits non pas militants, mais faits pour la discipline, c'est-à-dire pour la conformité, des esprits nés domestiques, des esprits belges qui ne peuvent penser qu'en société. Le goût du plaisir nous attache au présent. Le soin de notre salut nous suspend à l'avenir. Celui qui s'attache au plaisir, c'est-à-dire au présent, me fait l'effet d'un homme roulant sur une pente et qui, voulant se raccrocher aux arbustes, les arracherait, les emporterait dans sa chute. Avant tout, être un grand homme et un saint pour soi-même. De la haine du peuple contre la beauté. Des exemples, Jeannine et Madame Muller. Politique. En somme, devant l'histoire et devant le peuple français, La grande gloire de Napoléon III aura été de prouver que le premier venu peut, en s'emparant du télégraphe et de l'imprimerie nationale, gouverner une grande nation. Imbéciles sont ceux qui croient que de pareilles choses peuvent s'accomplir sans la permission du peuple, et ceux qui croient que la gloire ne peut être appuyée que sur la vertu. Les dictateurs sont les domestiques du peuple, rien de plus. Un foutu rôle d'ailleurs, et la gloire est le résultat de l'adaptation d'un esprit avec la sottise nationale. Qu'est-ce que l'amour? Le besoin de sortir de soi. L'homme est un animal adorateur. Adorer, c'est se sacrifier et se prostituer. Aussi, tout amour est-il prostitution? L'être le plus prostitué, mais c'est l'être par excellence, c'est Dieu, puisqu'il est l'ami suprême pour chaque individu, puisqu'il est le réservoir commun, inépuisable de l'amour. Prière. Ne me châtiez pas dans ma mère et ne châtiez pas ma mère à cause de moi. Je vous recommande les âmes de mon père et de Mariette. Donnez-moi la force de faire immédiatement mon devoir tous les jours et de devenir ainsi un héros et un saint. Un chapitre sur l'indestructible, éternelle, universelle et ingénieuse férocité humaine. De l'amour du sang, de l'ivresse du sang, de l'ivresse des foules, de l'ivresse du supplicié, Damiens. Il n'y a de grand parmi les hommes que le poète, le prêtre et le soldat. L'homme qui chante, l'homme qui sacrifie et se sacrifie. Le reste est fait pour le fouet. Défions-nous du peuple, du bon sens, du cœur, de l'inspiration et de l'évidence. J'ai toujours été étonné qu'on laissât les femmes entrer dans les églises. Mais quelles conversations peuvent-elles avoir avec Dieu? L'éternelle Vénus, caprice, hystérie, fantaisie, est une des formes séduisantes du diable. Le jour où le jeune écrivain corrige sa première épreuve, il est fier comme un écolier qui vient de gagner sa première vérole. Ne pas oublier un grand chapitre sur l'art de la divination par l'eau, les cartes, l'inspection de la main, etc. La femme ne sait pas séparer l'âme du corps. Elle est simpliste comme les animaux. Un satirique dirait que c'est parce qu'elle n'a que le corps. Un chapitre sur la toilette. Moralité de la toilette, les bonheurs de la toilette. De la cuistrerie, des professeurs, des juges, des prêtres et des ministres. Les jolis grands hommes du jour. Renan, Feydeau, Octave Feuillet, Scholl. Les directeurs de journaux, François Bulot, Jousset, Rodi, Girardin, Texier de Calonne, Solar, Turgot, Dalloz. Liste de canailles, Solar en tête. Être un grand homme et un saint pour soi-même, voilà l'unique chose importante. Nadar, c'est la plus étonnante expression de vitalité. Adrien me disait que son frère Félix avait toutes les viscères en double. J'ai été jaloux de lui à le voir si bien réussir dans tout ce qui n'est pas l'abstrait. Veuillot est si grossier, si ennemi des arts, qu'on dirait que toute la démocratie du monde s'est réfugiée dans son sein. Développement du portrait, suprématie de l'idée pure chez le chrétien comme chez le communiste babouviste, fanatisme de l'humilité, ne pas même aspirer à comprendre la religion. Musique de l'esclavage, des femmes du monde, des filles, des magistrats, des sacrements, l'homme de lettres est l'ennemi du monde, des bureaucrates. Dans l'amour, comme dans presque toutes les affaires humaines, l'entente cordiale est le résultat d'un malentendu. Ce malentendu, c'est le plaisir. L'homme crie « Oh mon ange !» La femme roucoule « Maman, maman !» Et ces deux imbéciles sont persuadés qu'ils pensent de concert. Le gouffre infranchissable qui fait l'incommunabilité reste infranchi. Pourquoi le spectacle de la mer est-il si infiniment et si éternellement agréable? Parce que la mer offre à la fois l'idée de l'immensité et du mouvement. 6 ou 7 lieues représentent pour l'homme le rayon de l'infini. Voilà un infini diminutif, qu'importe s'il suffit à suggérer l'idée de l'infini total. 12 ou 14 lieues de liquide en mouvement suffisent pour donner la plus haute idée de beauté qui soit offerte à l'homme par son habitacle transitoire. Il n'y a rien d'intéressant sur la terre que les religions. Qu'est-ce que la religion universelle? Chateaubriand, de Maistre, les Alexandrins, Capet. Il y a une religion universelle faite pour les alchimistes de la pensée, une religion qui se dégage de l'homme, considéré comme memento divin. Saint Marc Girardin a dit un mot qui restera « Soyons médiocres ». Rapprochons ce mot de celui de Robespierre. Ceux qui ne croient pas à l'immortalité de leur âme maître se rendent justice. Le mot de Saint Marc Girardin implique une immense haine contre le sublime. Qui a vu Saint Marc Girardin marcher dans la rue a conçu tout de suite l'idée d'une grande voix, infatuée d'elle-même, mais effarée et courant sur la grande route devant la diligence. Théorie de la vraie civilisation. On n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. Elle est dans la diminution des traces du péché originel. Peuples nomades, pasteurs, chasseurs, agricoles et même anthropophages, tous peuvent être supérieurs par l'énergie, par la dignité personnelle à nos races d'Occident. Celles-ci peut-être seront détruites. Théocratie et communisme. C'est par le loisir que j'ai en partie grandi. À mon grand détriment, car le loisir sans fortune augmente les dettes, les avanies résultant des dettes. Mais à mon grand profit relativement à la sensibilité, à la méditation et à la faculté de dandysme et du dilettantisme. Les autres hommes de lettres sont pour la plupart de vils piocheurs, très ignorants. La jeune fille des éditeurs, la jeune fille des rédacteurs en chef, la jeune fille épouvantail, monstre, assassin de l'art, la jeune fille, ce qu'elle est en réalité, une petite sotte, une petite salope, la plus grande imbécile unie à la plus grande dépravation. Il y a dans la jeune fille toute l'abjection du voyou et du collégien. Avis aux non-communistes. Tout est commun, même Dieu. Le français est un animal de basse-cour si bien domestiqué qu'il n'ose franchir aucune palissade. Voir ses goûts en art et en littérature. C'est un animal de race latine. L'ordure ne lui déplaît pas. Dans son domicile et en littérature, il est scatophage. Il raffole des excréments. Les littératures d'estaminet appellent cela le sol gaulois. Bel exemple de la bassesse française, de la nation qui se prétend indépendante avant toutes les autres. À cet endroit est collé sur le manuscrit l'entrefilet suivant, découpé dans un journal. L'extrait suivant du beau livre de Monsieur de Vallabelle suffira pour donner une idée de l'impression que fit l'évasion de la Valette sur la portion la moins éclairée du parti royaliste. L'emportement royaliste, à ce moment de la Seconde Restauration, allait pour ainsi dire jusqu'à la folie. La jeune Joséphine de la Valette faisait son éducation dans l'un des principaux couvents de Paris, l'abbaye aux Bois. Elle ne l'avait quitté que pour venir embrasser son père. Lorsqu'elle y rentra après l'évasion et que l'on connut la part bien modeste qu'elle y avait prise, une immense clameur s'éleva contre cet enfant. Les religieuses et ses compagnes la fuyaient et bon nombre de parents déclarèrent qu'ils retiraient leur fille si on la gardait. Ils ne voulaient pas, disaient-ils, laisser leur enfant en contact avec une jeune personne qui avait tenu une pareille conduite et donné un pareil exemple. Et quand Madame de Lavalette, 6 semaines après, recouvra la liberté, elle fut obligée de reprendre sa fille. Princes et générations. Il y a une égale injustice à attribuer aux princes régnants les mérites et les vices du peuple actuel qu'ils gouvernent. Ces mérites et ces vices sont presque toujours, comme la statistique et la logique le pourraient démontrer, attribuables à l'atmosphère du gouvernement précédent. Louis XIV hérite des hommes de Louis XIII, gloire. Napoléon les hérite des hommes de la République, gloire. Louis-Philippe hérite les hommes de Charles X, gloire. Napoléon III hérite les hommes de Louis-Philippe, déshonneur. C'est toujours le gouvernement précédent qui est responsable des mœurs du suivant, en tant qu'un gouvernement puisse être responsable de quoi que ce soit. Les coupures brusques que les circonstances font dans les règnes ne permettent pas que cette loi soit absolument exacte relativement au temps. On ne peut pas marquer exactement où finit une influence, mais cette influence subsistera dans toute la génération qui l'a subie dans sa jeunesse. De la haine de la jeunesse contre les citateurs. Le citateur est pour eux un ennemi. Je mettrai l'orthographe même sous la main du bourreau, Théophile Gautier. Beau tableau à faire, la canaille littéraire. Oh, ne pas oublier un portrait de Forgues, le pirate, l'écumeur de lettres. Goût inamovible de la prostitution dans le cœur de l'homme, d'où naît son horreur de la solitude. Il veut être deux. L'homme de génie veut être un, donc solitaire. La gloire, c'est rester un et se prostituer d'une manière particulière. C'est cette horreur de la solitude, le besoin d'oublier son moi dans la chair extérieure, que l'homme appelle noblement besoin d'aimer. Deux belles religions immortelles sur les murs, éternelles obsessions du peuple, le phallus antique, et vive Barbès, ou abat Philippe, ou vive la République. Étudier dans tous ses modes, dans les œuvres de la nature et dans les œuvres de l'homme, l'universelle et éternelle loi de la gradation des peu à peu, du petit à petit, avec les forces progressivement croissantes comme les intérêts composés en matière de finances. Il en est de même dans l'habileté artistique et littéraire. Il en est de même dans le trésor variable de la volonté. La cohue des petits littérateurs qu'on voit aux enterrements distribuant des poignées de main et se recommandant à la mémoire du faiseur de courrier, de l'enterrement des hommes célèbres. Molière. Mon opinion sur Tartuffe est que ce n'est pas une comédie, mais un pamphlet. Un athée, s'il est simplement un homme bien élevé, pensera à propos de cette pièce, il ne faut jamais livrer certaines questions graves à la canaille. Glorifier le culte des images. Ma grande, mon unique, ma primitive passion. Glorifier le vagabondage et ce qu'on peut appeler le bohémianisme. Culte de la sensation multipliée s'exprimant par la musique. En référé à Liszt. De la nécessité de battre les femmes. On peut châtier ce que l'on aime. Ainsi les enfants, mais cela implique la douleur de mépriser ce que l'on aime. Du cocuage et des cocus. La douleur du cocu. Elle naît de son orgueil et d'un raisonnement faux sur l'honneur et sur le bonheur et d'un amour niaisement détourné de Dieu pour être attribué aux créatures. C'est toujours l'animal adorateur se trompant d'idole. Analyse de l'imbécilité insolente. Clément de Ris et Paul Pérignon. Plus l'homme cultive les arts, moins il bande. Il se fait un divorce de plus en plus sensible entre l'esprit et la brute. La brute seule vide de bien, et la fouterie est le lyrisme du peuple. Foutre, c'est aspirer à entrer dans un autre, et l'artiste ne sort jamais de lui-même. Oh, j'ai oublié le nom de cette salope. Oh, bon, je le retrouverai au jugement dernier. La musique donne l'idée de l'espace. Tous les arts, plus ou moins, puisqu'ils sont nombre et que le nombre est une traduction de l'espace. Vouloir tous les jours être le plus grand des hommes. Étant enfant, je voulais être tantôt pape, mais pape militaire, tantôt comédien. Jouissance que je tirais de ces deux hallucinations. Tout enfant, j'ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie. C'est bien le fait d'un paresseux nerveux. Les nations n'ont de grands hommes que malgré elles. À propos du comédien et de mes rêves d'enfance, un chapitre sur ce qui constitue dans l'âme humaine la vocation du comédien, la gloire du comédien, l'art du comédien et sa situation dans le monde. La théorie de Legouvet. Legouvet est-il un farceur froid, un Swift qui a essayé si la France pouvait avaler une nouvelle absurdité. Son choix, bon, en ce sens que Samson n'est pas un comédien. De la vraie grandeur des parias, peut-être même la vertu nuit-elle au talent des parias. Le commerce est par son essence satanique. Le commerce, c'est le prêté rendu, c'est le prêt avec le sous-entendu « Rends-moi plus que je ne te donne ». L'esprit de tout commerçant est complètement vicié. Le commerce est naturel, donc il est infâme. Le moins infâme de tous les commerçants, c'est celui qui dit « Soyons vertueux pour gagner beaucoup plus d'argent que les sots qui sont vicieux ». Pour le commerçant, l'honnêteté elle-même est une spéculation de lucre. Le commerce est satanique parce qu'il est une des formes de l'égoïsme et la plus basse ou la plus vile. Quand Jésus-Christ dit « Heureux ceux qui sont affamés car ils seront rassasiés », Jésus-Christ fait un calcul de probabilité. Le monde ne marche que par le malentendu. C'est par le malentendu universel que tout le monde s'accorde. Car si par malheur on se comprenait, on ne pourrait jamais s'accorder. L'homme d'esprit, celui qui ne s'accordera jamais avec personne, doit s'appliquer à aimer la conversation des imbéciles et la lecture des mauvais livres. Il en tirera des jouissances amères qui compenseront largement sa fatigue. Un fonctionnaire quelconque, un ministre, un directeur de théâtre ou de journal, peuvent être quelquefois des êtres estimables, mais ils ne sont jamais divins. Ce sont des personnes sans personnalité, des êtres sans originalité, nés pour la fonction, c'est-à-dire pour la domesticité publique. Dieu et sa profondeur. On peut ne pas manquer d'esprit et chercher dans Dieu le complice et l'ami qui manque toujours. Dieu est l'éternel confident dans cette tragédie dont chacun est le héros. Il y a peut-être des usuriers, des assassins qui disent à Dieu: Seigneur, faites que ma prochaine opération réussisse. Mais la prière de ces vilaines gens ne gâte pas l'honneur et le plaisir de la mienne. Toute idée est par elle-même douée d'une vie immortelle, comme une personne. Toute forme créée même par l'homme est immortelle, car la forme est indépendante de la matière, et ce ne sont pas les molécules qui constituent la forme. Anecdote relative à Émile Doué, à Constantin Guy, détruisant ou plutôt croyant détruire leurs œuvres. Il est impossible de parcourir une gazette quelconque de n'importe quel jour ou quel mois ou quelle année sans y trouver à chaque ligne les signes de la perversité humaine la plus épouvantable, en même temps que les vanteries les plus surprenantes de probité, de bonté, de charité et les affirmations les plus effrontées relatives au progrès et à la civilisation. Tout journal, de la première ligne à la dernière, n'est qu'un tissu d'horreur. Guerre, crime, vol, impudicité, torture, crime des princes, crime des nations, crime des particuliers. Une ivresse atrocité universelle. Et ce de ce dégoûtant apéritif que l'homme civilisé accompagne son repas de chaque matin. Tout dans ce monde sue le crime. Le journal, la muraille, le visage de l'homme. Je ne comprends pas qu'une main puisse toucher un journal sans une convulsion de dégoût. La force de l'amulette démontrée par la philosophie, les sols percés, les talismans, les souvenirs de chacun. Traité de dynamique morale, de la vertu des sacrements. Dès mon enfance, tendance à la mysticité, mes conversations avec Dieu. De l'obsession, de la possession, de la prière et de la foi. Dynamique morale de Jésus. Renan trouve ridicule que Jésus croie à la toute-puissance, même matérielle, de la prière et de la foi. Les sacrements sont des moyens de cette dynamique, de l'infamie de l'imprimerie, grand obstacle au développement du beau. Belle conspiration organisée pour l'extermination de la race juive. Les juifs, bibliothécaires et témoins de la rédemption. Tous les imbéciles de la bourgeoisie qui prononcent sans cesse les mots immoral, immoralité, moralité dans l'art et autres bêtises, me font penser à Louise Villedieu, putain à 5 francs, qui, m'accompagnant une fois au Louvre où elle n'était jamais allée, se mit à rougir, à se couvrir le visage, et me tirant à chaque instant par la manche, me demandant, devant les statues et les tableaux immortels, comment on pouvait étaler publiquement de pareilles indécences. Les feuilles de vigne du sieur Nürnberger. Pour que la loi du progrès existât, il faudrait que chacun voulût la créer. C'est-à-dire que quand tous les individus s'appliqueront à progresser, alors l'humanité sera en progrès. Cette hypothèse peut servir à expliquer l'identité des deux idées contradictoires, liberté et fatalité. Non seulement il y aura, dans le cas de progrès, identité entre la liberté et la fatalité, mais cette identité a toujours existé. Cette identité, c'est l'histoire, histoire des nations et des individus. Sonnet a cité dans « Mon cœur mis à nu », citait également la pièce sur Roland. Je songeais cette nuit que Phyllis revenue, belle comme elle était à la clarté du jour, voulant que son fantôme encore fît l'amour et que comme Ixion j'embrassasse une nue. Son ombre dans mon lit se glisse toute nue et me dit « Cher Damon, me voici de retour. Je n'ai fait qu'embellir en ce triste séjour où depuis mon départ le sort m'a retenu. Je viens pour rabaiser le plus beau des amants. Je viens pour remourir dans tes embrassements. » Et quand cette idole eut abusé ma flamme, elle me dit « Adieu, je m'en vais chez les morts. Comme tu t'es vanté d'avoir foutu mon corps, tu pourras te vanter d'avoir foutu mon âme. » Parnasse satirique, je crois que ce sonnet est de Ménard. Malassis prétend qu'il est de Théophile. Hygiène, projet. Plus on veut, mieux on veut. Plus on travaille, mieux on travaille et plus on veut travailler. Plus on produit, plus on devient fécond. Après une débauche, on se sent toujours plus seul, plus abandonné. Au moral comme au physique, j'ai toujours eu la sensation de gouffre, non seulement du gouffre du sommeil, mais du gouffre de l'action, du rêve, du souvenir, du désir, du regret, du remords, du beau, du nombre, etc. J'ai cultivé mon hystérie avec jouissance et terreur. Maintenant, j'ai toujours le vertige, et aujourd'hui, 23 janvier 1862, j'ai subi un singulier avertissement. J'ai senti peser sur moi le vent de l'aile de l'imbécilité. Hygiène morale. À Honfleur, le plus tôt possible avant de tomber plus bas. Que de pressentiments et de signes envoyés déjà par Dieu, qu'il est grandement temps d'agir, de considérer la minute présente comme la plus importante des minutes, et de faire ma perpétuelle volupté de mon tourment ordinaire, c'est-à-dire du travail. Hygiène, conduite morale. À chaque minute, nous sommes écrasés par l'idée et la sensation du temps. Il n'y a que deux moyens pour échapper à ce cauchemar, pour l'oublier, le plaisir et le travail. Le plaisir nous use, le travail nous fortifie, choisissons. Plus nous nous servons d'un de ces moyens, plus l'autre nous inspire de répugnance. On ne peut oublier le temps qu'en s'en servant. Tout ne se fait que peu à peu. Demestre et Edgar Poe m'ont appris à raisonner. Il n'y a de long ouvrage que celui qu'on n'ose pas commencer. Il devient cauchemar. Hygiène. Alors en voyant à ce qu'on a à faire, on court le danger de ne jamais pouvoir le faire. En ne se convertissant pas tout de suite, on risque d'être damné. Pour guérir de tout, de la misère, de la maladie et de la mélancolie, il me manque absolument que le goût du travail. Note précieuse. Fais tous les jours ce que veulent le devoir et la prudence. Si tu travaillais tous les jours, la vie te serait plus supportable. Travaille 6 jours sans relâche pour trouver des sujets. Liste de mes goûts. Sois toujours poète, même en prose. Grand style, rien de plus beau que le lieu commun. Commence d'abord et puis sers-toi de la logique et de l'analyse. N'importe quelle hypothèse veut sa conclusion. Trouver la frénésie journalière. Hygiène, conduite morale. Deux parts. Dette, Ancel. Ami, ma mère, ami, moi. Ainsi, 1 000 francs doivent être divisés en 2 parts de 500 francs chacune, et la deuxième divisée en 3 parties. À Honfleur. Faire une revue et un classement de toutes mes lettres, 2 jours, et de toutes mes dettes, 2 jours. 4 catégories, billets, grosses dettes, petites dettes. Ami. Classement de gravure, 2 jours. Classement de notes, 2 jours. Hygiène, morale, conduite. Trop tard, peut-être. Ma mère et Jeanne. Ma santé par charité, par devoir. Maladie de Jeanne, infirmité, solitude de ma mère. Faire son devoir tous les jours et se fier à Dieu pour le lendemain. La seule manière de gagner de l'argent est de travailler d'une manière désintéressée. Une sagesse abrégée. Toilette, prière, travail. Prière, charité, sagesse et force. Sans la charité, je ne suis qu'une cymbale retentissante. Mes humiliations ont été des grâces de Dieu. Ma phase d'égoïsme est-elle finie? La faculté de répondre à la nécessité de chaque minute, l'exactitude en un mot doit trouver infailliblement sa récompense. Le malheur qui se perpétue produit sur l'âme l'effet de la vieillesse sur le corps. On ne peut plus remuer, on se couche. D'un autre côté, on tire de l'extrême jeunesse des raisons d'atermoiement. Quand on a beaucoup de temps à dépenser, on se perçoit qu'on peut attendre des années à jouer devant les événements. Chateaubriand. Hygiène, conduite morale. Jeanne 300, ma mère 200, moi 300. 800 francs par mois. Travailler de 6 heures du matin à jeun à midi. Travailler en aveugle, sans but, comme un fou. Oh, nous verrons le résultat. Je suppose que j'attache ma destinée à un travail non interrompu de plusieurs heures. Tout est réparable, il est encore temps. Qui sait même si des plaisirs nouveaux. Gloire, paiement de mes dettes, richesse de Jeanne et de ma mère. Je n'ai pas encore connu le plaisir d'un plan réalisé. Puissance de l'idée fixe, puissance de l'espérance. L'habitude d'accomplir le devoir chasse la peur. Il faut vouloir rêver et savoir rêver. Évocation de l'inspiration, art magique. Se mettre tout de suite à écrire. Non, je raisonne trop. Travail immédiat, même mauvais, vaut mieux que la rêverie. Une suite de petites volontés fait un gros résultat. Tout recul de la volonté est une parcelle de substance perdue. Combien donc l'hésitation est prodigue? Et qu'au juge de l'immensité de l'effort final nécessaire pour réparer tant de pertes. L'homme qui fait sa prière le soir est un capitaine qui pose des sentinelles, il peut dormir. Rêver sur la mort et avertissement. Je n'ai jusqu'à présent joui de mes souvenirs que tout seul. Il faut en jouir à deux. Faire des jouissances du cœur une passion. Parce que je comprends une existence glorieuse, je me crois capable de la réaliser, ô Jean-Jacques. Le travail engendre forcément les bonnes mœurs, sobriété et chasteté, et conséquemment la santé, la richesse, le génie successif et progressif, et la charité, age quod agis. Poisson, bain froid, douche, lichen, pastille, occasionnellement d'ailleurs, suppression de tout excitant. Lichen d'Islande, 125 grammes, sucre blanc, 250. Faire tremper le lichen pendant 12 ou 15 heures dans une quantité d'eau froide suffisante, puis jeter l'eau. Faire bouillir le lichen dans 2 litres d'eau sur un feu doux et soutenu, jusqu'à ce que ces 2 litres se réduisent à un seul litre, écumer une seule fois, ajouter alors les 250 grammes de sucre et laisser épaissir jusqu'à la consistance du sirop. Laisser refroidir, prendre par jour 3 très grandes cuillères à bouche le matin, midi et le soir. Ne pas craindre de forcer les doses si les crises étaient trop fréquentes. Hygiène, conduite, méthode. Je me jure à moi-même de prendre désormais les règles suivantes pour régler l'éternel de ma vie. Faire tous les matins ma prière à Dieu, réservoir de toute force et de toute justice, à mon père, à Mariette et à Pau, comme intercesseur. Les prier de me communiquer la force nécessaire pour accomplir tous mes devoirs, et d'octroyer à ma mère une vie assez longue pour jouir de sa transformation. Travailler toute la journée, ou du moins tant que mes forces me le permettraient. Me fier à Dieu, c'est-à-dire à la justice même, pour la réussite de mes projets. Faire tous les soirs une nouvelle prière pour demander à Dieu la vie et la force pour ma mère et pour moi. Faire de tout ce que je gagnerai 4 parts. Une pour la vie courante, une pour mes créanciers, une pour mes amis et une pour ma mère. Obéir au principe de la plus stricte sobriété, dont le premier est la suppression de tous les excitants, quels qu'ils soient. Fin de mon cœur mis à nu.